un journal de la vie de cet ancien serviteur du Christ, John Gratton suite, le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour renvoi aux écritures ou pour des détails dans les écrits. Peu après cela, un writ de excommunicat capiendo fut délivré. Tandis que j'étais dehors parmi les amis, j'eus un fort sentiment d'une profonde souffrance s'abattant sur moi, à tel point que je dis à un ami qu'elle était si profonde que je n'en voyais pas le fond, et je désirais dans mon cœur du Seigneur qu'il me rende capable de la supporter. Avant de rentrer du Yorkshire, je fis un rêve une nuit, dans lequel je vis, comme il me sembla, un grand dogue qui s'accrochait à moi et me retenait par mes vêtements tout près de la prison de Derby. Je vis qu'il était inutile de lutter, et c'est pourquoi, après avoir appelé son maître pour qu'il le retire, sans voir qu'il y fût disposé, je me rendis et le laissai me tenir. La veille de mon retour, je sentis la souffrance croître de plus en plus, et le lendemain j'allai à la foire de Bakewell, et l'officier m'arrêta avant que je puisse entrer dans mon auberge ou mettre mon cheval à l'écurie, étant le 16 du sixième mois, 1680. Il me fallait donc aller à Derby, mais nous passâmes cette nuit-là à Bakewell, où ma femme vint le lendemain matin et pleura. Je lui dis de ne pas pleurer, mais plutôt de se réjouir d'avoir été jugée digne de souffrir pour l'amour du Christ, qui avait tant souffert pour nous. Alors elle le supporta très bien, lorsqu'elle me vit le supporter si joyeusement. Quand nous arrivâmes à la prison, je demandai une détention gratuite, mais le geôlier n'y était pas disposé, et m'offrit sa bienveillance si je voulais rester dans sa maison et payer ma table, mais j'avais une femme et une famille, et ne pouvais donc me permettre de coucher chez lui à 7 shillings par semaine, j'insistai toutefois pour avoir une détention gratuite, comme je savais que la loi le permettait. Or il se trouva que, peu auparavant, il y avait eu plusieurs amis dans cette prison, qu'il avait mis au cachot parmi les voleurs, leur accordant à peine de la paille propre. Je me procurai donc un recueil des lois, qui disait qu'aucun shérif, ni sous-shérif, ni geôlier, ni sous-geôlier, ne devait garder et loger ensemble des débiteurs et des criminels, sous peine de 5 livres. Je le pris et allai voir le shérif, dont la femme et la mienne prétendaient une certaine parenté. Ils furent très amicaux envers moi et me prièrent de lui laisser mon livre et de le rencontrer aux assises, où il parlerait au juge, ce qu'il fit, et le juge ordonna que mes amis fussent séparés des criminels et qu'ils aient des chambres à eux. Le suivant à entrer en prison, ce fut moi, je demandai donc l'une de ces chambres, il dit qu'il y avait du grain. Alors retirez-le, dis-je, ce qu'il fit avec grande contrariété, et il m'y mit, étant une vieille chambre de prison. J'empruntai un lit avec quelques autres choses et j'entrai, il monta voir comment j'allais. J'avais du feu, et bien que je puisse voir la nuit les étoiles à travers les trous des tuiles, je dormais pourtant assez au chaud. J'avais la santé et j'étais bien content, et je pensais en moi-même que ce n'était là qu'une petite souffrance au regard de ce que je pourrais traverser avant de mourir. Je remis tout entre les mains du Seigneur, âme, corps et esprit, femme, enfant, et tout ce que j'avais, disant dans mon cœur, maladie ou santé, vie ou mort, que la volonté du Seigneur soit faite. Oh, que le Seigneur fût bon pour moi, et je demeurai tranquille et dormis doucement. Mais lorsque le geôlier vit que je m'installais pour y demeurer et que je m'organisais comme pour tenir maison, il se fâcha et s'en alla, et me verrouilla étroitement, et je restai ainsi quelque temps. Je ne désirais même pas regarder dehors à la porte. Mon cœur se réjouissait d'avoir été jugé digne de ces chaînes, et bien que je ne puisse rien obtenir sans le faire entrer par la fenêtre au moyen d'une corde, il se trouva pourtant que je ne manquais de rien tout le temps où il en fut ainsi, car en vérité, j'avais résolu de le supporter patiemment. Enfin un ami, nommé Robert Meek, vint me voir, et le gardien vint m'annoncer que quelqu'un était venu me voir, disant que je devais descendre dans la maison auprès de lui. Je vis par là que le geôlier voulait que je vienne à mes amis afin qu'ils dépensent de l'argent dans la maison, alors je dis au gardien que je n'étais pas disposé à descendre. « Si mes amis, dis-je, ne doivent pas venir à moi, je ne suis pas disposé à aller à eux. » Il descendit et, peu après, fit monter l'ami auprès de moi, nous laissant ensemble avec la porte non verrouillée, et lorsque l'ami eut passé le temps qu'il voulait, je descendis avec lui pour le voir enfourcher son cheval. Lorsqu'il fut parti, je parlai au geôlier et lui demandai pourquoi il me traitait si durement. Je lui dis que, s'il était civil, il aurait de la civilité de ma part, et que, s'il ne l'était pas, il pouvait faire comme bon lui semblait. Il dit que nous étions un peuple qui ne voulait rien faire sinon ce qui lui plaisait, puis, après que nous eûmes parlé un moment, il dit « Voilà la clé qui pend, prenez-la et faites comme il vous plaira. » Par la suite, j'allai et vins selon mes besoins dans la maison et les jardins du geôlier, mais il ne me laissa pas rentrer chez moi, bien que ma femme tombât si malade qu'on craigne qu'elle ne mourût. Je remis ma femme et mes enfants, et tout ce que j'avais entre les mains du Seigneur, et j'étais content, disant dans mon cœur, à peu près ainsi, « Vie ou mort, pauvreté ou richesse, quoi qu'il arrive, que la volonté du Seigneur soit faite. » Mais il plut au Seigneur que ma femme se rétablît, et oh, quelle paix j'eus après avoir tout remis, et ma prison me devint un lieu agréable, car le Seigneur, dans sa miséricorde, était avec moi, au point que je chantais même un chant vivant de louange, car la louange lui est due pour toujours. Des amis de Londres, dans un amour fraternel, envoyèrent un habeas corpus afin de me faire comparaître à Londres, où j'allais pour leur faire plaisir, car Nichol n'avait pas appliqué la loi correctement. Mais le tribunal de Londres ne voulut pas me relâcher alors. J'étais très inquiet jusqu'à ce que j'arrive au tribunal et que j'entende quelle manœuvre le parti des prêtres et Nichol avaient faite. Alors je cessai tout effort et résolus d'attendre le temps du Seigneur pour me faire sortir, comme il lui avait plu de se manifester à moi. La parole du Seigneur me vint, « Sois content, et je te ferai sortir avec honneur. » Sur quoi je retournai en prison, et y restai tranquillement jusqu'à ce que le roi Jacques me rende la liberté. Après cela, ce geôlier s'en alla, remplacé par un autre, qui fut très courtoise et bonne envers moi, et sa femme aussi fut bonne. Vers le printemps, mon fils aîné John mourut. J'obtins la liberté d'aller le voir, mais il mourut cette nuit-là après m'avoir vu. Quelques-unes de ses dernières paroles furent qu'il espérait que nous nous retrouverions là où eux, c'est-à-dire les hommes mauvais, ne nous séparaient plus. Le lendemain de son enterrement, je quittai ma femme et retournai en prison. Les prêtres se réjouissaient que je fusse en prison, et lors d'une réunion dans mon auberge à Tideswell, le prêtre Wilson dit à Fern, avec qui j'avais eu la dispute à Baslow, « Monsieur, je puis vous annoncer une nouvelle. »« Quelle nouvelle ?» dit Fern. « Eh bien, dit Wilson, Gratton est en prison. »« J'en suis content, dit Fern. » Voilà ces mercenaires qui montrent leur esprit envieux, qui n'épargnent pas le troupeau du Christ. Cette année-là, j'écrivis une épître à la réunion annuelle de Londres comme suit. Chers amis et frères, dans la vérité pure et immuable, je vous salue tous avec affection, vous qui êtes véritablement gardés fidèles, dans et par la puissance de Dieu pour sa gloire, lui qui, dans sa miséricorde sans fin, nous a appelés et choisis pour rendre témoignage à sa puissance éternelle et à sa divinité, lui qui est Dieu au-dessus de tous les dieux de la terre, qui ne sont que comme l'herbe, qui bientôt se dessèche et vient à sa fin. Vous, chers amis, qui demeurez dans la puissance de Dieu, la montagne de la véritable sainteté, et dans la lumière immuable, qui est aujourd'hui la même qu'elle l'était au commencement de son jaillissement en nous, vous êtes l'objet de mon amour, qui en ce moment se renouvelle envers vous, et je vous sens proche et cher comme jamais. Vous que Dieu a fait colonne dans sa maison, vase honorable dans sa main, rendu apte à son service, mon âme vous honore, oui, et vous estime hautement dans le Seigneur. Sachant très bien que votre nourriture et votre boisson sont de faire la volonté de votre Père qui est aux cieux, et que vos cœurs sont joyeusement engagés dans les affaires de votre Père. Vous pouvez dire en vérité que ceux-là, et ceux-là seuls, sont vos frères et sœurs, qui connaissent et font la volonté de votre Père qui est aux cieux, car Dieu, notre Dieu et Père éternel, nous a suscités par son propre bras et nous a fait sortir dans sa propre lumière, vie et puissance, non pour faire nos propres volontés mais la sienne. Béni soit son nom. Son propre peuple se plaît à vivre sous son gouvernement et aime son règne et n'est pas peu heureux de sentir l'accroissement de son royaume dans ses cas particuliers et de le voir chez les autres. Car ceci, chers amis, est un labeur connu de tout cœur droit et une lourde préoccupation pour ceux qui ont l'esprit honnête dans toutes les églises des saints, que rien ne soit admis ni permis qui entrave l'accroissement du royaume et du gouvernement du Christ Jésus notre Seigneur. C'est pour cette raison, entre autres que je pourrais mentionner, que je sais que c'est une chose très agréable au Seigneur que vous vous réunissiez, vous qui portez joyeusement dans vos esprits un soin grave pour la prospérité de la vérité éternelle, qui vous est vraiment précieuse, afin que dans la sagesse et l'amour de Dieu par sa puissance éternelle et dans le printemps de la vie, vous soyez réellement conduits comme un seul homme à vous lever pour la cause de Dieu et rendus capables de vous acquitter de ce service important qui pèse sur vous. Combien largement le Seigneur notre Dieu a manifesté que votre réunion lui est agréable, en vous donnant sa présence d'une manière si puissante et glorieuse, au-delà de ma capacité de le déclarer, et la sceller dans mon cœur, et je suis sûr dans vos cœurs comme étant une chose vraiment bonne et honorable. Et cela déclare au monde entier que bien que nous soyons de plusieurs comtés de cette nation, oui et de plusieurs nations, nous sommes pourtant un seul corps dans un même esprit et une même pensée, et notre unité, notre amour et notre... C'est pourquoi l'ennemi s'emporte et envie notre prospérité dans la vérité bénie, et cherche par tous les moyens à empêcher l'accroissement du royaume et du gouvernement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours, que le Seigneur le réprime, l'enchaîne et le foule sous nos pieds. Je soupire avec ardeur vers le Seigneur notre Dieu, afin qu'il vous donne une bonne occasion, qui rassasie l'âme, selon sa manière habituelle, et je crois qu'il le fera, et qu'il remplira vos coupes, oui, et les fera déborder abondamment pour la joie et la consolation de tout cœur sincère parmi vous, et que le Seigneur vous remplisse de l'esprit de jugement, afin que vous soyez comme des assistants dans le gouvernement. Jugez pour Dieu, et placez le vrai jugement sur la tête de la transgression et des transgresseurs, où qu'il se trouve, et ainsi dégager la vérité qui est pure de scandale et de professants scandaleux, afin que Dieu soit glorifié, et que tous ses ennemis qui ne veulent pas qu'il règne sur eux soient abattus et mis à mort devant lui, afin que, par-dessus tout, il soit exalté, lui qui seul en est digne, Dieu béni à jamais. Amen, chers frères, je puis dire en vérité que je suis avec vous en esprit, et mon amour se renouvelle vivement envers vous, et je serais heureux d'être avec vous en personne, mais je n'ai pu obtenir permission. Ainsi, comme gage de mon cher amour et de ma véritable unité envers vous et avec vous, il était dans mon cœur d'écrire ainsi. En cela je demeure votre cher ami et frère. Que des louanges éternelles soient rendues à notre Dieu à jamais. Amen. Écrit dans la prison de Derby, où je suis prisonnier pour l'amour de la vérité. John Gratton 22 du 3e mois, 1683. Après quelques années, le geôlier me donna parfois la permission de rentrer chez moi et d'y rester quelques semaines, mais cela déplaisait aux prêtres et aux officiers. Une fois, alors que j'étais à la maison, un ami qui devait se marier vint à moi et insista pour que j'assiste à son mariage, disant qu'il croyait qu'il y aurait un grand service, car beaucoup de gens de la ville de Chesterfield, où il avait été apprenti, y seraient. Je pensais donc y aller, mais cette nuit-là, après son départ, comme j'étais assis dans ma propre maison, une épreuve tomba sur moi. Je me tournai alors en moi-même et attendis d'en connaître la cause, et la parole du Seigneur me vint, disant, « Tu ne dois pas aller à ce mariage, car l'officier y sera, mais tu dois aller demain à Derby à la prison. » Je me couchai très affligé de devoir aller si tôt à Derby, car j'avais permission de rester encore quelques semaines à la maison. Je le dis à ma femme, et je doutais de pouvoir dormir, pourtant par miséricorde je dormis, mais quand je m'éveillai le lendemain matin, cela demeura sur moi jusqu'à ce que je parte. Quand j'arrivai à Derby, le geôlier était au Bowling Green. Je lui dis que j'étais venu les voir, ce dont il se réjouit et me dit de descendre, qu'il me suivrait. Quand je fus depuis peu à la prison, deux grands prêtres vinrent avec quelqu'un qu'on appelait un gentilhomme pour me voir, et demandèrent à me voir. Je vins donc à eux, mais lorsqu'ils me virent, ils n'eurent rien à me dire. Car ils m'avaient fait appeler, comme je suppose, parce qu'ils étaient sûrs que je n'étais pas là. Seul l'homme qui était venu avec eux, nommé Outshaw, et qui me connaissait bien pour couvrir l'affaire, se mit à parler un peu avec moi et engagea quelques discours sur la religion. Mais il se tut bientôt et ne fut pas capable de résister à la vérité, tandis que les prêtres ne disaient rien, se contentant de regarder puis de s'en aller. Lorsqu'ils furent partis, le geôlier se réjouit que les choses eussent été ainsi ordonnées et que j'ai été là, si près à être vu par eux, et il dit que si je n'avais pas été là ce jour-là, cela lui aurait coûté 40 livres, car l'un des prêtres était le prêtre principal de la ville de Derby, et l'autre très haut placé. Il en fut si content qu'il me laissa rentrer chez moi de nouveau le même jour. Ainsi les méchants complotaient contre les justes, car nous percevions que leur dessein était de prendre avantage contre le geôlier pour m'avoir donné de la liberté, et ainsi de me faire tenir étroitement prisonnier, puis ils espéraient que quelques parents à moi leur donneraient de l'argent pour ma libération. Je suppose qu'ils avaient eu quelque information selon laquelle on s'attendait à me voir au mariage mentionné, et ils arrangèrent la chose de telle sorte que l'officier alla au mariage pour m'y prendre, s'attendant à m'y trouver en train de prêcher, car il amena avec lui un juge de paix à la réunion, nommé Gladman, un homme qui savait mieux qu'il ne pratiquait, et qui demanda après moi, et le juge de paix saisit R. C'est pour le tirer hors de la réunion, mais il lâcha prise et tomba sur un banc, puis à terre, et y resta jusqu'à ce que des amis l'aident à se relever. Ces prêtres devaient attester qu'il y était venu ce jour-là à la prison, qu'il m'avait demandé, et que je n'y étais pas. Mais le bon Dieu les déjoua et ordonna que je sois à la prison et non au mariage. Toutefois, l'officier dénonça la réunion, et les amis furent condamnés à des amendes, un ami à 20 livres pour avoir prêché, ce qui aurait été mon lot s'il m'y avait trouvé en train de prêcher, et les autres à 5 shillings chacun pour avoir écouté. Ils firent donc saisir sur G. H. 20 livres, et sur les amis 5 shillings, mais le Seigneur vit tout leur complot contre moi, et dans sa miséricorde me délivra ce jour-là, et mon geôlier non plus ne souffrit pas pour sa bonté envers moi. Oh. Quelle manifestation du grand amour du Seigneur ce fut, pour laquelle je ne fus pas en mesure de rendre pleinement la louange et les humbles remerciements qui lui sont dus, pour sa miséricorde et son soin paternel, lui qui connaissait les desseins de nos ennemis et les empêcha. Bien que nous fussions ignorants et ne sachions rien de ce complot, le Seigneur, dans sa miséricorde, me le révéla par son bon esprit, afin que j'aille à la prison. Oh, quel Père tendre et quel merveilleux conseiller nous avons! Le ciel et la terre sont remplis de sa majesté, et sa puissance est sur tout. Que toute la création, et mon âme, avec tout ce qui est en moi, loue le Seigneur, car sa miséricorde demeure de génération en génération. Il est Dieu et ne change pas, le même aujourd'hui, hier et pour toujours. C'est pourquoi son peuple n'est pas consumé. Bien que la mer se déchaîne et que les bêtes des champs rugissent, les brebis et les agneaux du troupeau du Christ Jésus sont sauvés, et les lions et les ours sont abattus par lui, qui a toute puissance au ciel et sur la terre, et délivrera tous ceux qui se confient véritablement en lui. » David dit, « Pourquoi les nations s'agitent-elles, et les peuples imaginent-ils une chose vaine? Les rois se concertent, et les princes tiennent conseil contre le Seigneur et contre son oint, ce dont l'apôtre fit joyeusement mémoire, Actes 4, 18-34. Lisez et prenez courage, vous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ avec sincérité, et ne craignez pas l'homme, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni les hommes ni les démons ne peuvent nous nuire, quoiqu'ils puissent nous tenter et nous éprouver, mais si nous suivons le Seigneur, il nous aidera au temps du besoin. Mon principal but en écrivant ces choses remarquables est que d'autres prennent courage de se confier en Dieu et de lui obéir en toutes choses, sans craindre l'homme qui n'est que comme l'herbe. Pendant que j'étais en prison, il m'arrivait parfois de parler par la fenêtre aux gens, et beaucoup d'entre eux m'étaient affectueux et amicaux, et quelques jeunes hommes furent convaincus, parmi lesquels le fils aîné du geôlier, qui s'avança noblement dans l'obéissance au Seigneur, ce dont son père fut irrité et le chassa de la maison. Il fut aussi offensé contre moi et dit qu'il me mettrait au cachot et me chaînerait au mur, mais il ne le fit jamais, car il semblait parfois pire qu'il n'était en réalité, car il m'aimait plus qu'il ne le montrait, et la liberté qu'il me donnait en était la preuve. Un jour, je fus préoccupé en esprit pour son fils, car il avait peu de commerce à Derby, la ville étant envieuse, et beaucoup semblaient se détourner de lui et ne voulaient pas faire affaire avec lui, parce qu'il s'était tourné vers la vérité. Son père était inquiet, car certains auraient voulu que le grand shérif le fasse destituer de sa charge de geôlier. Mais il me vint au cœur de faire au geôlier une proposition, s'il voulait bien me donner, à moi et à son fils, la permission, j'irai avec lui à Londres et je l'y placerai. Je descendis et le dis à sa femme, qui le dit à son mari, et il y consentit. Alors j'aidai son fils, autant que je le pus, à se défaire de ses biens, puis je l'emmenai avec moi à Londres et le plaçai chez un ami honnête, George Watt, où il réussit bien, car le Seigneur lui donna faveur aux yeux des amis, et il grandit dans la vérité. Au bout de quelque temps, il sentit son esprit engagé par de l'affection pour une jeune femme sérieuse, d'une famille honnête, une amie, alors il descendit pour obtenir le consentement de ses parents, afin de procéder au mariage. Ainsi je dus remonter de nouveau à Londres, ce que je fis, et j'appréciai beaucoup la jeune femme. Ils se marièrent donc, et il s'associa en affaires avec un ami, et devint riche en tout, et le Seigneur le bénit. Après quelque temps, son père monta à Londres et vit comment son fils vivait, et reconnut que j'avais fait pour lui plus qu'il n'aurait pu faire lui-même. Une fois, ayant permission de rentrer quelque temps à la maison, pour voir ma femme et ma famille, il arriva que Robert Mailey de Whitre dans le Staffordshire mourut. Il avait été un ami honnête en son temps, et un noble exemple dans les temps de souffrance. Sa femme était aussi une femme au cœur sincère, et son fils John un ami très honnête. Ayant appris que j'étais à la maison, ils envoyèrent m'inviter à venir à son enterrement. Et bien que je fusse affligé de la perte d'un ami si fidèle, je désirais aller à son enterrement, pensant qu'il y aurait beaucoup de monde, car il était aimé des riches comme des pauvres, et jouissait d'une bonne réputation auprès de gens de toutes sortes. Étant prisonnier, je considérais que le geôlier pourrait être blâmé ou destitué à cause de mon absence, car lui, sa femme et ses enfants m'aimaient beaucoup et étaient très bons envers moi. Je m'attendis donc au Seigneur, désirant connaître sa pensée, si je devais y aller ou non. Alors je sentis que je pouvais y aller, bien que j'aie eu le sentiment qu'il y aurait danger de rencontrer quelques troubles, mais je ne savais pas comment ni de quelle manière cela viendrait. Le jour venu j'y allai, et beaucoup de gens y étaient, dont plusieurs personnes de rang et de considération dans le monde, ainsi que le grand constable de notre centaine, dont Robert était l'oncle. Je n'étais pas à l'aise dans mon esprit de rester à la maison, mais j'avais en tête d'aller au cimetière et de ne pas rester jusqu'à ce que le corps soit porté hors de la maison, sur quoi je laissai les gens à table et m'en allai, et lorsque j'arrivai à l'extrémité de la ville de Basford, je rattrapai deux hommes vêtus de noir, qui m'ouvrirent la barrière mais tandis que j'avançais, il s'éleva dans mon cœur qu'il était des dénonciateurs. Ils passèrent eux aussi devant le cimetière comme s'ils allaient plus loin, bien que je susse qu'il n'y avait pas de chemin. Alors je mis pied à terre et allai à un passage de clôture pour les observer, et je vis qu'ils traversèrent un village jusqu'au terrain de l'ami qui habitait là, et se couchèrent sous une haie jusqu'à ce que le corps approche. Alors ils se relevèrent et se mêlèrent à la foule, tout cela je le vis, et j'étais en peine de savoir que faire, si je devais entrer dans le cimetière ou non, car si j'y allais, je ne savais pas si mon gardien ne pourrait pas être destitué, et il y avait en outre trois amis publics, à savoir W. F. J. H. et J. J. Je m'attendis humblement au Seigneur pour recevoir conseil, s'il lui plaisait dans sa miséricorde de m'enseigner et de m'aider à faire sa volonté en ce moment-là. Et tandis que j'attendais et marchais, les gens arrivèrent avec le corps, et il plut au Seigneur de m'encourager à aller à la tombe et que tout irait bien, alors j'y allai, et ma bouche fut ouverte pour parler aux gens, et la puissance du Seigneur était avec moi. Et après avoir terminé, j'entrai dans la maison de l'ami et je m'assis gardant mon manteau sur moi, mais quelques inconnus. Je restai assis là, et ils ne me reconnurent pas, mais demandèrent mon nom et où je demeurais, et elle le leur dit, par quoi ils atteignirent leur but. Or les deux hommes en noir se révélèrent être des dénonciateurs, l'un était un prêtre, l'autre un maître d'école, comme je l'appris ensuite. Ils me dénoncèrent au magistrat, et ils me condamnèrent à 20 livres d'amende, et les trois amis qui parlèrent à la tombe à 20 livres chacun, et Thomas Hammersley, l'ami de la maison, pour le cimetière à 20 livres, en tout 100 livres, outre d'autres amis à 5 shillings chacun pour les autres présents. Pourtant ces dénonciateurs ne tirèrent rien de ces 100 livres d'aucun de nous cinq, car des amis allèrent trouver les magistrats, et ils modérèrent la peine, et aussi les juges de paix de notre comté refusèrent d'accorder leur mandat pour saisir mes biens, parce que j'étais prisonnier. L'ami défunt était un homme riche, et ses parents l'étaient aussi, tant dans ce comté que dans le Derbyshire, sur quoi ils envoyèrent un mandat pour saisir les biens de la veuve, à qui ils prirent une jument, et peu d'autres perdirent beaucoup à cause de ces dénonciateurs, car le cœur de beaucoup de gens s'éleva contre eux. Comme j'étais dans un autre comté, un mandat fut envoyé contre moi à ce William Bousley pour saisir mes biens pour 20 livres, mais il dit que j'étais hors de sa centaine, et qu'il ne s'en mêlerait pas. Ainsi il les y conduisit, et tout alla bien, bien qu'ils employassent un piètre avocat du Staffordshire pour aller voir Simon Degg, juge de paix à Derby, pour obtenir un mandat de saisie de mes biens. Mais le juge de paix leur dit que j'étais prisonnier. « Non, dit l'avocat, il est en liberté. Non, dit le juge de paix, il est en prison. » Il se trouva qu'il y avait là un prisonnier à ce moment-là, et le juge de paix le questionna, et il témoigna que j'étais en prison car j'étais entré la veille au soir, et il m'avait vu et avait été avec moi quelque temps dans la maison du geôlier, sur quoi le juge de paix dit, « Que voulez-vous ? Il est prisonnier, je n'accorderai donc aucun mandat contre lui. » Le prisonnier rentra le soir et me rapporta, devant le geôlier, sa femme et beaucoup d'autres, quelle lutte il avait eue à mon sujet chez le juge de paix d'Aigue, disant, « L'avocat Sutton a demandé un mandat contre vous, pour avoir prêché à l'enterrement de Robert Mellé, mais le prisonnier nommé Porté affirma que j'étais en prison, et ainsi Sutton n'obtint aucun mandat. Quand mon geôlier s'aperçut que, pendant que j'avais été chez moi avec permission, j'avais osé aller à cet enterrement, il s'écria, « Vous allez vous perdre, et moi aussi. » Mais je le regardai et dis hardiment, comme cela s'éleva en mon cœur, « Homme, ne crains rien, car vous ne souffrirez rien pour la bonté que vous me montrerez. » C'était le temps des assises à Derby, et le grand constable mentionné plus haut, qui était le neveu de Robert Mellé et qui était à l'enterrement, dit au conseiller Liming qu'il se sentait disposé à se plaindre au juge de Montgeolier pour m'avoir laissé la liberté d'aller aux réunions. Le conseiller Liming le dit à un ami à moi, un avocat de la ville qui me voulait du bien, et il me rapporta ce qu'il avait entendu et de qui il le tenait. Je lui dis, « Je vous prie de demander au conseiller si ce n'était pas Robert Dahl, car il était à l'enterrement aussi bien que moi, et je dis que c'était dur, si nous ne pouvions pas avoir la liberté de nous enterrer les uns les autres, ou en ce sens. » Mais quand il sut que je l'avais désigné, il n'en dit plus rien, et ne fit aucune plainte au juge, car cela aurait été une honte pour lui de se plaindre de moi pour avoir été à l'enterrement de son oncle. Mon bon geôlier ne reçut aucun blâme, mais tout alla bien, conformément à ce qui avait été dit dans mon cœur lorsque j'allais au bord de la tombe, que tout irait bien. Le diable ne fut pas autorisé à faire autant de mal qu'il l'aurait voulu, et le Seigneur consola mon âme au travers de toutes ces épreuves, gloire, honneur et louange lui soient rendus, à lui qui ne manque jamais à ceux qui se confient véritablement en lui. Après quelque temps, j'allai de nouveau à Londres, et j'y étais lorsque le roi Charles mourut, et que son frère monta sur le trône, lequel, après quelque temps, mit en liberté tous ceux qui étaient en prison pour motif de conscience. Pendant que je demeurais en prison, j'eus quelques discussions avec les papistes qui étaient emprisonnés avec moi, au sujet de plusieurs choses. La première fois, le prêtre papiste commença avec moi ainsi. Le geôlier étant malade, je descendis le voir, et quand le prêtre apprit que j'étais avec le geôlier, il vint aussi avec environ 8 débiteurs, qui étaient des hommes courtois bien élevés, ils vinrent voir le geôlier, et étant assez joyeux avec le vieil homme, le prêtre papiste s'écria, « Je puis bien être joyeux, moi qui souffre pour la vérité, lorsque je vois avec quelle gaieté certains hommes souffrent pour l'erreur. » Et il n'y avait personne, sinon lui, un autre papiste, et moi, qui souffris pour notre profession de foi, de sorte que je vis qu'il visait à m'atteindre. Je lui dis qu'en ce temps-là, nul ne souffrait pour sa religion sinon lui, un autre de son opinion, et moi donc, dis-je, ou bien vous ou bien moi souffrons pour l'erreur. Prouvez votre accusation, ou reconnaissez votre faute, car je ne veux pas m'en contenter, lui disant que s'il pouvait faire paraître que je souffrais pour une erreur, je le prendrais pour mon ami, car je ne voulais pas vivre ni mourir dans l'erreur, si je la connaissais. Alors il n'aurait plus voulu en entendre parler, mais je ne voulais pas laisser passer cela et le laisser s'en aller ainsi, car l'accusation était grave, « Prouvez-le, dis-je, ou confessez votre erreur. » Il demanda donc par quoi nous devions être jugés, on répondit, « Par la règle de l'Église. » Il l'accepta et moi aussi. Je lui demandai alors quelle était cette règle, mais il parut esquiver et ne voulut pas répondre. Toutefois un autre, assis là, dit que c'était les Écritures. Le papiste dit non. Je lui demandai encore ce qu'il disait être la règle, il ne répondit pas. Je demandai, est-ce le pape? Non, dit-il. Je demandai si c'était l'Église, il répondit non, et je fus d'accord, car l'Église devait être gouvernée par la règle, et ne pouvait donc pas être la règle. Mais je demandai encore ce qu'il disait être la règle de la véritable Église, il semblait réticent à répondre, mais pressé, il dit que la tradition était la règle. La tradition. Dis-je, mais quelle était la règle avant qu'il y eût la tradition? Car il a bien fallu qu'il y eût des anciens avant qu'il y eût la tradition des anciens. Et je dis que la règle est une règle ferme, stable, permanente, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, qui ne se modifie ni ne change, à laquelle on ne peut rien ajouter ni retrancher. À tout cela, il sembla avoir peu ou rien à répondre. La compagnie me demanda de leur dire ce que je croyais être cette règle. Et répondant à leur demande, je leur dis que c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui était au commencement, et qui était Dieu, et qui est Dieu, et qui ne change pas. Et depuis que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert la mort pour nous et est ressuscité, cet Esprit est répandu sur toute chair, voire acte 2. C'est lui qui guida Enoch, de sorte qu'il reçut le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Il a été le guide, la règle et le conducteur de tous les patriarches, prophètes et saints hommes de Dieu, qui parlèrent comme ils étaient poussés par le Saint-Esprit, ou l'Esprit de vérité, qui conduit et guide la véritable Église dans toute la vérité, et tout vrai culte est en lui. Et tous ceux qui sont conduits et guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les fils et les filles de Dieu. Telle fut et telle est la règle de la véritable Église, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi, ce qui guide l'Église doit être la règle, celui qui agit selon une règle est guidé par elle et gouverné par elle. C'est lui qui baptise les hommes dans l'Église ou le corps du Christ, c'est de lui que les enfants de Dieu naissent, et par lui qu'ils sont nourris, de sorte qu'il leur donne la vie, les inspire et leur donne l'intelligence, manifestant à chaque homme ce qui est pour son profit et son bien, et cela est donné librement. Les apôtres en étaient les ministres ou serviteurs, cela introduit les hommes dans l'adoption, et les rend capables d'appeler Dieu Père, et de dire en vérité que Jésus est le Seigneur, cela dirige les hommes à obéir et les rend capables de faire la volonté de Dieu. C'est la grâce et un don gratuit pour tous, et s'ils le veulent, ils peuvent venir et en boire abondamment, car c'est une fontaine d'eau vive. Depuis que les hommes s'en sont détournés et ont couru après des guides aveugles, ils s'y opposent et s'opposent les uns aux autres et sont confondus. Ayant perdu la règle, le vrai guide, ils crient « le voici » et « le voilà » et sont hors de l'amour et de la charité les uns envers les autres, l'un pour un chef et gouvernant, l'autre pour un autre chef, ainsi chaque tête veut régner, et comme il y a beaucoup de têtes et de cornes jusqu'à l'étonnement, ils se heurtent les uns aux autres. Et c'est dans Babylone qu'on trouve tout le sang des saints et des martyrs de Jésus. Mais la véritable Église est pleine d'amour et de bienveillance envers tous les hommes, avec bien d'autres choses dans ce sens. À cette conversation, la compagnie crut que l'Esprit de vérité était la règle et le guide. Alors le prêtre papiste souhaita que lui et moi soyons en paix et ne voulut plus de discussion. Après cela, deux hommes de l'Église d'Angleterre, qui me voulaient du bien, vinrent me voir et me firent appeler dans la grande salle du geôlier. Mais avant mon arrivée, un autre papiste, qui avait été jugé pour avoir contrefait de la monnaie, entra en conversation avec eux et dénigra fortement leur église, se montrant très arrogant. Je demandai alors, s'il ne peut être montré que le pape de Rome est dans l'esprit de l'apôtre Pierre, considérait-il qu'il ne peut être le successeur de Pierre? Le papiste répondit oui. Je lui demandai ensuite si Simon le magicien n'était pas hors de l'esprit de Pierre, lui qui pensait que le don de Dieu pouvait s'acheter et se vendre pour de l'argent. Il répondit oui. Alors, dis-je, le pape est dans l'esprit de Simon le magicien, et non dans celui de Pierre, car il a la même idée, gagner de l'argent en donnant l'esprit, mais il dit non, que le pape ne pensait pas ainsi. Alors, dis-je, il est pire que Simon le magicien, parce qu'il fait croire aux gens qu'ils obtiendront l'esprit. Sinon, pourquoi prend-il de l'argent pour ses bulles, ses pardons et ses indulgences? À cela, ni lui ni le prêtre papiste qui se tenait là ne dirent plus un mot, mais s'en allèrent, et les hommes épiscopaliens en furent contents. Après cela, un jésuite, avec un autre prêtre et deux autres papistes, vinrent à la prison. Un jour, le jésuite me montra un passage dans un livre qui parlait d'un homme naissant de l'esprit et de l'eau. Je lui demandai pourquoi il me montrait cela, et il répondit « afin que je voie qu'un homme doit naître de l'eau aussi bien que de l'esprit ». Je lui demandai « de quelle eau ?» Il dit « l'eau du baptême ».« Quoi, dis-je, de l'eau terrestre ?» Il dit « oui ». Alors, dis-je, croyez-vous que l'eau terrestre est en elle une vertu pour aider à faire d'un homme une nouvelle créature ? Ce à quoi il dit oui. Alors je niai leur baptême et lui dis qu'il ne pouvait pas prouver que notre Sauveur le Christ ait jamais baptisé quelqu'un d'eau, ni qu'il ait commandé à aucun homme de baptiser d'eau, et je lui dis de prouver ou de céder, mais il ne put prouver leur baptême, et il n'était pas disposé à céder. je le laissai donc chercher dans les Écritures une preuve. Après cela, il m'attaqua vivement au sujet de l'Eucharistie ou sacrement, comme il l'appelle, du pain et du vin. Il me dit qu'après les paroles de consécration ainsi nommées, prononcées par le prêtre, nous ne lisons rien de telles paroles dans l'Écriture, le pain était réellement, corporellement et substantiellement la chair même du Christ, et le vin son sang même, invoquant les paroles du Christ, « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Je lui dis, le Christ a aussi dit, « La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, et celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie ». Mais l'apôtre, parlant des enfants d'Israël, 1 Cor 10, dit, « Ils furent tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et ils mangèrent tous la même nourriture spirituelle, et burent tous la même boisson spirituelle, car ils buvaient à ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Or, si c'est le même, c'est spirituel, et non, comme vous le dites, corporel, et si ce n'est pas le même, l'apôtre n'a pas parlé vrai. Cela le réduisit au silence, car il n'osait pas dire que l'apôtre mentait, et si donc c'était le même, et si le même, alors ce n'était pas la chair même du Christ corporellement. Il resta donc silencieux un moment, enfin il dit, « Eh bien, pour ma part, je ne sais rien de manger ou boire spirituellement. Alors je dis, il n'est pas nécessaire de parler davantage avec vous. » Une autre fois, il commença à converser avec moi, me demandant si je ne croyais pas un purgatoire, où tous vont avant de pouvoir aller au ciel. Il dit qu'il y avait un lieu de purification après cette vie, et que trois sortes de personnes allaient au purgatoire. Une sorte était si sainte qu'elle passait tout droit à travers lui vers le ciel, car leurs œuvres demeuraient, et elles en recevaient la récompense. Une autre sorte était si impie qu'elle passait tout droit à travers le purgatoire vers l'enfer. Et il y avait une troisième sorte, la plus nombreuse, qui n'était ni assez sainte pour aller tout droit au ciel, ni assez impie pour aller tout droit en enfer, et cela restait dans le feu du purgatoire. Puis il demanda, « L'œuvre d'un homme peut-elle être éprouvée avant d'être faite ?» Je dis non. Alors il dit, « L'œuvre d'un homme peut-elle être dite faite avant qu'il soit mort ?» Je dis non. « Eh bien donc, dit-il, si l'œuvre d'un homme ne peut être éprouvée avant d'être faite, comme elle ne le peut, ni faite avant qu'il soit mort, elle doit être éprouvée après qu'il est mort, et elle doit être éprouvée par le feu, donc ce doit être le feu du purgatoire. » Je lui demandai de quelle sorte de feu il s'agissait, si c'était comme celui devant nous, un feu de charbon, un feu élémentaire. Il dit oui. Je n'avais jamais entendu auparavant, dis-je, qu'un feu de charbon puisse éprouver les œuvres des hommes, ou qu'il brûle pour toute l'éternité. Alors le Seigneur prit plaisir à se manifester, car je le sentais près de moi, et il ouvrit mon intelligence, et je m'appliquai à lui montrer, par les Saintes Écritures, que les hommes devaient connaître l'état d'être baptisés dans la mort de Christ, devenir morts au péché tandis qu'ils sont ici-bas, et être ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions dans une vie nouvelle. Car si nous avons été plantés ensemble, dit l'apôtre, dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans celle de sa résurrection, sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, et que désormais nous ne servions plus le péché. Rome 6. L'apôtre disait, « Comment, vous qui êtes morts au péché, pourriez-vous vivre encore dans le péché ?» Ainsi, le vieil homme étant crucifié, la mort n'a plus de domination sur vous, et celui qui entre en Christ, le vrai repos, cesse de ses propres œuvres, comme Dieu a cessé des siennes, Christ agit en lui, car il est tout en tout. Le baptême de Christ est du Saint-Esprit et de feu, et il purifiera la souillure de la fille de Sion par l'esprit de jugement et de brûlement, et le jour du Seigneur brûlera comme un four, et Jacob deviendra une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume, et le Seigneur s'assiera comme un feu d'affineur, et comme un foulon avec du savon, et ôtera la souillure de la fille de Sion, et purgera parfaitement ses scories, et ôtera son étain. Le Seigneur a dit par son prophète, « Je rendrai l'homme plus précieux que l'or d'Ophir, et qu'il purifierait les fils de Lévi. » La parole du Seigneur est comme un feu et comme un marteau, pour briser les rochers. Et notre Dieu est un feu consumant pour tous les ouvriers d'iniquité, et il se révèle dans des flammes de feu, pour exercer la vengeance sur tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et deviennent comme des scories et du fumier en comparaison de Christ. Ainsi l'homme perd toutes ses propres œuvres, car elles ne peuvent supporter l'épreuve, mais Christ est de la part de Dieu, devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, et si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur, car hors de lui il n'y en a point. Cela doit être fait ou connu en cette vie, de jour, car le jour le déclarera, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun pour voir de quelle sorte elle est. C'est pourquoi, dit Christ, travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a 12 heures dans le jour, pendant lesquelles l'homme peut travailler, mais il n'y a ni œuvre, ni dessein, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. C'est pourquoi, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car tel l'arbre tombe, tel il demeure, et comme la mort laisse, le jugement trouve, et dans la tombe il n'y a pas de repentance. La tombe ne peut louer le Seigneur, la mort ne peut le célébrer, ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent espérer en sa vérité, mais ceux qui meurent dans le Seigneur sont bien heureux, et ceux qui sont en Christ n'ont besoin d'aucun purgatoire après la mort, ayant lavé leurs vêtements et les ayant blanchis dans son propre sang. Rien d'autre ne peut purifier les gens, ni les sauver de leurs péchés, car il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu que par lui, nul autre non plus ne peut sauver de la mort et donner la vie éternelle, sinon Jésus-Christ. Il fut dit bien davantage que je ne puis m'en souvenir maintenant. Mais il était ignorant et peu au fait de ces choses, si bien qu'il n'avait aucun moyen de me contredire ni de nier ce que je disais, ainsi son purgatoire fut entièrement rejeté comme une invention des hommes, et leur prétention de faire sortir les gens du purgatoire par leurs prières n'est qu'une supercherie pour obtenir de l'argent, et toutes leurs indulgences ne sont que tromperies, car le Seigneur seul a le pouvoir de pardonner le péché. Bien des choses s'éclaircirent dans mon esprit, et tout ce qu'il put dire n'aboutit à rien, ainsi nous nous séparâmes en bons termes. Ô béni soit le Seigneur, qui a dévoilé la grande séductrice et toutes ses abominations, et le faux prophète avec toutes ses métamorphoses est vu, et tous deux sont ensemble jetés à terre. Elle est ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus, et elle en a soif encore. Mais le Seigneur a un reste qui est sorti d'elle et refuse de participer à ses péchés, de peur de participer à ses plaies, car fort est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui la juge. J'eus aussi un bon service parmi beaucoup d'autres personnes, et parfois je parvins à assister à quelques réunions à Little Eaton et en d'autres lieux, mais je n'ai pas noté ce qui s'est passé partout, seulement quelque chose remarquable. J'écrivis au prêtre de Danby au sujet des pratiques grossières et méchantes dans lesquelles vivaient les habitants de cette ville, car ils faisaient des feux de joie, et une année ils promenèrent une chose qu'ils appelaient le pape, puis la brûlèrent dans le feu, et l'année suivante ils promenèrent une chose qu'ils appelaient presbytère John, et la brûlèrent aussi, et ces choses, avec beaucoup d'autres que je vis dans la ville, m'affligèrent beaucoup. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, à propos de Halloween. Un soir d'automne, alors que j'étais en Suisse, des feux de bûches apparurent soudain sur beaucoup des collines et flancs de montagnes alentour. Les bûches étaient disposées en une maison rectangulaire de rondins sans toit, avec de grands interstices entre les bûches. À l'intérieur de la structure en bois, on voyait l'image d'un mannequin d'homme. Je demandai aux habitants de longue date quelle était la signification de ces feux, et ils répondirent qu'il s'agissait d'une ancienne coutume annuelle, dont ils ne savaient pas pourquoi elle existait. Curieux, je fis des recherches sur le phénomène et découvris que l'origine du bon fir, feu de joie, était un bon fir, feu d'os du sacerdoce druidique. Chaque automne, les Celtes païens célébraient Samhain, au début de la moitié sombre de l'année, à la fin de l'été. Les prêtres druides visitaient chaque foyer la nuit, venant avec des bougies dans des gourdes, jack-o'-lanternes de Halloween, et demandant des offrandes, animaux ou enfants pour les dieux, les bougies étaient faites avec la graisse d'humains sacrifiés. Ces mêmes prêtres décidaient aussi qui seraient les sacrifices humains aux dieux cette année-là. Des sacrifices étaient requis pour garder les dieux satisfaits. Ainsi, chaque foyer cherchait à se montrer très coopératif, sous peine d'être maudit ou choisi comme sacrifice humain le « trick or treat » de Halloween. Les âmes malheureuses choisies pour apaiser les dieux étaient sacrifiées en étant placées dans une palissade de bois « cage wicker », puis brûlées vives dans l'embrasement de l'enclos, visible dramatiquement de tous, surtout dans les régions montagneuses. Tandis que personnes et animaux hurlaient d'agonie, brûlés vifs, les druides et leurs adeptes s'habillaient de costumes faits de peau et de têtes d'animaux. Ils dansaient, chantaient et sautaient à travers les flammes dans l'espoir d'éloigner les esprits mauvais. Cela se produisait dans toute l'Europe, car les druides contrôlaient la majeure partie de l'Europe. La secte romaine, dans une tentative de récupérer les traditions de la religion païenne et d'attirer davantage de personnes, transforma ce jour en la Toussaint. Cette variante anglaise consistant à brûler le pape et presbytère John est manifestement de la même origine. À cette époque, les prêtres, du haut de leur chair, prêchaient à haute voix que l'obéissance active devait être pratiquée par tous les sujets du roi. Et un certain Henry Ward, ayant été un jour avec le maire, vint me voir le soir et me dit que le maire avait dit que nous devions obéir activement au roi, de sorte que si le roi nous ordonnait d'adorer Mahomet, nous devrions le faire. Et si c'était mal, ce serait la faute du roi, et non la nôtre. En ce temps-là, la loi des 20 livres par mois fut mise à exécution contre ceux qui étaient riches, ou ceux que les poursuivants avaient envie d'affliger, sur quoi un certain Burs de Derby, pour éviter de souffrir, se conforma, et il n'y avait guère un homme dans cette ville, d'après les remarques que j'en fis alors, qui voulut être réputé presbytérien, car il n'avait aucune réunion d'en haut autour de cette ville, à moins qu'elle ne fût secrète. Telle est la lâcheté des hommes, dont la religion est bâtie sur la tradition et les inventions des hommes, et non sur Christ, car il est évident par là combien il est nécessaire que les hommes fondent leur édifice sur ce rocher que ni les doctrines venteuses des hommes, ni les vagues enflées de la persécution ne peuvent ébranler. Durant mon emprisonnement, plusieurs personnes vinrent à moi en prison les premiers jours, et nous y eûmes de bonnes réunions, car bien que les ministres de l'Évangile puissent être enfermés dans des geôles à cause du témoignage, pourtant la parole de Dieu ne peut être liée, car elle avait libre cours et était glorifiée. Cette prison me fut rendue facile, et tout allait bien à la maison avec ma chère épouse et ma famille, et bien qu'elle fût une femme délicate, elle fut néanmoins rendue capable, par miséricorde, de tenir les marchés, de faire tourner notre commerce pour notre subsistance. Elle venait aussi parfois me voir en prison, bien que ce fût à 16 milles, ce qui lui était pénible en saison d'hiver. Pendant que j'étais prisonnier, j'écrivis un petit livre, que j'intitulai « La justification du prisonnier », ainsi que quelques épîtres et lettres aux amis, et des méditations en vers pour mes enfants. La raison pour laquelle j'ai écrit certains passages remarquables de mes souffrances pour la vérité, ainsi que les grandes choses que le Seigneur a opérées pour moi, tant en me soutenant en cela qu'en délivrant, et que mes enfants et d'autres puissent être encouragés à être fidèles au Seigneur et vaillants pour la vérité sur la terre. C'est pour cette cause qu'il m'est venu à l'esprit de dire aux autres combien le Seigneur a été bon pour moi, et pour cela je suis profondément engagé à louer son grand nom. L'extrait suivant est tiré de l'ouvrage mentionné ci-dessus, « À tous les persécuteurs, par parole comme par acte ». Le 16 jour du sixième mois, appelé août 1680, étant à Bakewell pour mes affaires, comme c'était la foire, je fus arrêté par deux ou trois huissiers, en vertu d'un mandat d'excommunicato capiendo, pour ne pas venir à l'église paroissiale, comme on l'appelle, et pour ne pas comparaître devant la cour spirituelle. J'y avais comparu plusieurs fois, et avais offert au prêtre paroissial que, s'il pouvait démontrer par une écriture claire que j'étais dans l'erreur, je le prendrais pour mon ami. Et de plus, que s'il pouvait démontrer par une écriture claire que c'était mon devoir devant Dieu de venir à l'église paroissiale et de me conformer à eux, je le ferais. Mais il ne jugea pas que ce fût son affaire de chercher à m'instruire alors, ni à aucun autre moment, n'étant pas assez charitable pour me demander de revenir une autre fois et de discuter cela avec moi. Bien qu'après cela je n'ai plus jamais été cité devant la cour, néanmoins, le jour susmentionné, je fus envoyé à la prison de Derby où je demeure prisonnier. Après que j'eus été envoyé en prison, on lança contre moi beaucoup de fausses accusations, afin de me rendre, moi et la vérité, odieux aux gens de la campagne, qui étaient prêts à s'étonner qu'on envoyât un homme si paisible en prison. Par mes persécuteurs, je fus fortement accusé d'être un hérétique, un factieux, le meneur d'un peuple factieux, un blasphémateur, un ennemi de César, un homme dangereux, un propagateur de principes dangereux, et que sais-je encore. Le but de toutes ces accusations était de faire penser le peuple mal de moi et de le faire croire, contre son meilleur jugement, que j'étais quelque homme dangereux, à tel point qu'il disait que je n'étais pas digne de vivre, et surtout pas digne d'être libre dans le pays, car en me gardant en prison, ils espéraient disperser le reste des dissides vers l'Église d'Angleterre. En entendant ces calomnies malveillantes et mensongères, j'en fus affligé, non pour moi-même, mais pour les autres, dont j'entendais dire qu'ils étaient prêts à penser mal de moi, parce que de tels bruits avaient trouvé quelque crédit auprès de certains, tenus pour sages et posés, et ils y croyaient parce que d'autres y croyaient. Ces autres y croyaient parce que mes persécuteurs, que la plupart regardent comme des hommes spirituels, les rapportaient parmi ces hommes sans charité. Pas un ne vint me montrer ma prétendue triste condition, mais en prison je dois demeurer, quoi qu'il advienne de ma femme et de mes enfants. Ma femme alla avec deux autres amis auprès de l'archidiacre, comme on l'appelle, et lui montra le caractère déraisonnable de ma souffrance et le besoin que j'avais de liberté, mais ses paroles furent de grandes accusations, comme dit plus haut, bien qu'il n'ait jamais conversé de religion de sa vie. Il est vrai qu'il dit aussi qu'il viendrait me voir et s'entretiendrait avec moi, et que si j'avais raison et lui tort, je sortirais de prison et il y entrerait à ma place, mais jusqu'ici il ne tient pas parole. Je déclare à tous ceux qui liront ces lignes que, si je ne puis faire apparaître qu'il a tort et que j'ai raison, je consentirai alors à rester où je suis, seulement je voudrais être jugé par des hommes non prévenus contre la vérité, qui ne soient pas partiaux, et qui ne tirent aucun gain extérieur profit monétaire des Écritures. Beaucoup d'autres ont désiré ma libération, certains par lettre, et d'autres par démarche personnelle, mais tout échoue, à moins que je ne me conforme et ne paie les frais qu'ils ont engagés pour me faire mettre en prison, chose que je ne puis et n'ose faire. Car premièrement, je crois que je ne dois pas me conformer au culte qui est maintenant maintenu par les prêtres de cette nation, par leurs prédications et leurs pratiques, et qui n'est pas soutenu par leurs propres bourses argent, car eux et leur culte ont coûté cher au peuple. Deuxièmement, je crois que, bien qu'ils appellent ma manière de culte hérésie, je crois pourtant qu'elle est le vrai culte de Dieu, et je trouve par une bonne et grande expérience que le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, qui est esprit, l'approuve et la reconnaît comme telle. Car le culte que je reconnais et crois être le vrai culte de Dieu est celui dont il est parlé en Jean 4, 23-24. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité, et notre Sauveur a dit que le Père cherche de tels adorateurs. Troisièmement, puisque notre Seigneur, Christ Jésus, a établi, institué et commandé ce culte, je crois donc que je ne dois pas l'abandonner pour courir à un autre culte, qui n'est commandé nulle part dans l'Écriture, ni par Christ ni par aucun de ses apôtres, pensant ainsi sauver mes biens, vivre en liberté dans le monde et jouir de ses droits et privilèges naturels dont je suis l'héritier né libre, et dont je remarque que l'ivrogne, le jureur, le maudisseur et le méchant orgueilleux ne sont pas privés, bien qu'ils soient si méchants. Enfin, puisque je fais les choses que je crois devoir faire, et n'ai donné aucune juste occasion d'offense ni fait tort à aucun homme, je ne puis donc me tenir pour fautif et donner de l'argent pour un pardon à ceux qui, tout en pardonnant les autres, commettent par là les plus grands péchés auxquels ils puissent s'approcher. Si j'ai péché, c'est contre Dieu, et c'est à lui que je regarde pour miséricorde, mais en cela je ne suis pas accusé ni jugé par lui comme un pécheur, mais reconnu et justifié par lui, et je puis dire, c'est Dieu qui me justifie, qui me condamnera. Or, si je venais à mes persécuteurs, reconnaissais être un coupable, achetais leur absolution et me conformais à leurs cérémonies inventées, alors, ce faisant, je donnerais le démenti à l'Esprit de Dieu, ainsi qu'à mon propre cœur et à ma conscience, de quoi j'espère sans offenser pouvoir prendre la liberté de dire « Bon Seigneur, préserve-moi ». Mais puisque je ne dois pas attendre de mes persécuteurs un meilleur traitement qu'une prison, qui est en effet la manière d'argumenter que les faux prophètes de tous les siècles ont employé, avec des choses de même nature, telles que amantes, fouets, fosses aux lions, fournaises ardentes, fagots et autres semblables, je désire qu'ils veuillent bien me permettre de les traiter avec quelques arguments qui me viennent à l'esprit, et quand j'aurai fini je les laisserai faire comme il plaira à Dieu de les laisser faire, et quant à moi, je désire qu'ils considèrent tes consuls. Et premièrement, je vous demande, à vous qui me persécutez, moi et d'autres, si, comme vous le dites faussement, j'étais un hérétique, un factieux, etc. Quel précepte ou quel exemple avez-vous de Christ ou de ses apôtres pour me mettre en prison, puisque je suis un homme paisible, juste dans mes affaires, et que je rends à César ce qui lui est dû, comme beaucoup de ceux qui me connaissent en témoigneront, mais au lieu d'un commandement de persécuter, notre Seigneur Christ ne l'interdit-il pas à plusieurs reprises ? Peut-être direz-vous que ce n'est pas une persécution que de traiter ainsi un homme dans l'erreur, etc. Pourtant, peut-être que malgré le nom que vous lui donnez, vous qui appelez la lumière ténèbres et les ténèbres lumière, il est un vrai chrétien et un serviteur de Jésus-Christ. Christ n'interdit-il pas toutes sortes de violences, de cruautés, d'impositions et semblables, lorsqu'il dit à ses disciples d'aimer leurs ennemis, ce qui interdit de persécuter leurs amis, et tout ce qu'il voudrait que les hommes fassent pour eux, de le faire de même aux hommes, disant, c'est là la loi et les prophètes. Il a aussi dit, de la mesure dont vous mesurez ou donnez, il vous sera mesuré de retour. Est-ce obéir au commandement de Christ que de mettre des hommes en prison ? Vous ne voudriez pas qu'on vous le fasse à cause de votre foi sans fidélité et de votre culte sans valeur. Bien que vous professiez aimer Dieu, pourtant, tandis que vous le niez par vos œuvres, je ne ferai pas grand cas de votre profession. Car le vrai ami de Dieu est celui qui garde ses commandements, comme on le verra un jour, lorsque ceux qui prétendaient prêcher et prophétiser en son nom, et en son nom chasser les démons, se verront dire de s'éloigner de lui comme ouvriers d'iniquité. Et si ceux qui prêchent et prophétisent en son nom, et en son nom chassent les démons, sont renvoyés loin de lui parce qu'il était néanmoins des ouvriers d'iniquité, que pensez-vous que sera le lot de ceux qui prêchent et prophétisent au nom des hommes, et ne sont soutenus que par l'autorité des hommes, et au lieu de chasser les démons, disent au peuple qu'il doit vivre dans le péché toute sa vie, et le rendent satisfait de laisser le diable garder la maison, le précipitent dans l'iniquité, la transgression et le péché tous les jours de leur vie, et malgré tout cela. Oh, que la fin de ces choses sera terrible, mon esprit est affligé d'y penser. Mais plus encore, Christ n'a-t-il pas commandé que l'ivraie et le blé croissent ensemble, et ces deux mots blé et ivraie ne comprennent-ils pas toute l'humanité ? Que pouvez-vous tirer de vos pratiques ici ? Si je suis de l'ivraie, vous devriez me laisser tranquille jusqu'au jour de la moisson, car qu'avez-vous à faire du serviteur d'autrui ? C'est à son maître qu'il tient ou qu'il tombe. Christ Jésus montra aussi une raison pour laquelle il voulait que les hommes les laissassent en paix et qu'ils croissent ensemble, car, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le blé. Cela montre clairement que les hommes peuvent se tromper, surtout ceux qui n'ont pas un esprit infaillible, car c'est l'Esprit de Dieu qui est infaillible, qui sonde et rend toutes choses manifestes, même les choses profondes de Dieu. Nous avons eu assez d'expérience que, sous prétexte d'arracher l'ivraie, ce qui est contraire au commandement de Christ, le diable a travaillé de toutes ses forces à déraciner le blé du monde, et bien que Christ ait dit qu'il n'était pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver, pourtant le diable est venu pour tuer et détruire la vie des hommes, non pour la sauver. Christ reprit ses disciples lorsqu'ils voulaient faire descendre le feu du ciel, et leur dit qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient. « Mon royaume, dit-il, n'est pas de ce monde. Il n'est pas venu être seigneur et roi d'une manière extérieure, et faire céder les hommes par une force extérieure, car si cela avait été, alors ses serviteurs auraient combattu, mais il est venu établir son royaume dans le cœur des hommes. Il a été promis par le Seigneur qu'il le donnerait pour alliance au peuple, qu'il créerait en eux des cœurs nouveaux, qu'il écrirait ses lois en eux, qu'il mettrait sa crainte dans leurs parties intérieures, et qu'il serait leur Dieu. Ainsi, quand Christ vint, il leur dit, « Le royaume des cieux est au-dedans de vous », et le prophète dit, « Il s'assiera comme un feu d'affineur et comme du savon de foulon, pourquoi faire sinon pour purifier le cœur, afin qu'il présente une offrande en justice ?» Il est vrai que les apôtres, dans leur faiblesse, défendirent à ceux qu'ils trouvèrent chassant les démons en son nom de le faire, parce qu'ils ne le suivaient pas, mais Christ l'approuva-t-il ? Non, il les reprit disant, « Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. » Astérisque, je pense que vous, prêtres, qui me persécutez, moi et d'autres, devriez en tenir compte, puisque vous avez vu certains de vos auditeurs ivrognes devenir des hommes très sobres après être venus entendre prêcher les Quakers, comme vous nous appelez. Certains de vos auditeurs jureurs, maudisseurs, orgueilleux et profanes deviennent des gens très attentifs, en parole comme en acte, et quoi. Cela vous afflige-t-il ? Je pense que vous devriez reconnaître de tels hommes, qui agissent si puissamment sur le cœur des gens pour les rendre bons, comme des hommes de votre camp, si vous êtes pour Dieu, et vous devriez, comme Christ, que vous appelez votre Seigneur et Maître, plutôt reprendre ce qui nous interdisent que nous interdire vous-même. Quand, comme Pierre, Jean et Paul, nous ne pouvons que dire les choses que nous entendons et voyons et que nous sommes commandés de dire, ce n'est pas alors qu'il faut nous saisir et nous mettre en prison, et ainsi fermer la bouche de ce que Dieu a ouvert, et s'irriter contre eux, bien qu'ils fassent ce qu'ils font gratuitement, et ne recherchent aucune part de vos grands revenus. Souvenez-vous que vous ne désirez pas être traités de la même manière, et il vaut aussi la peine que vous remarquiez que ce que notre Sauveur Christ chassa à coups de fouet du Temple était des acheteurs et des vendeurs. Que penseriez-vous si de tels gens devaient être chassés à coups de fouet de vos églises maintenant, et si seuls étaient admis à prêcher ceux qui prêcheraient gratuitement ? Mais bien qu'il ait chassé de tels gens du Temple, comme dit plus haut, nous ne lisons jamais qu'il ait fouetté quelqu'un pour le faire entrer dans le Temple, ni que si quelqu'un ne voulait pas venir à cet endroit, il l'ait emprisonné, ou qu'il lui ait infligé une amende, ou chose semblable. Non, il était un berger, tendre et aimant envers eux. Si quelqu'un s'égare, sa manière de le ramener est de l'appeler toujours avec douceur, en le reprenant, en le réprimandant et en l'avertissant dans son cœur par son esprit, et en le suivant par ses justes jugements dans l'homme intérieur. Astérisque, chasser des démons au nom de Jésus est une chose qu'il faut tolérer. Toutefois, si quelqu'un prêchait une autre voie de salut, il fallait le reprendre fermement et le faire taire, voire le maudire. Paul a dit, « Car il y a beaucoup d'insoumis, de vains discoureurs et de séducteurs, surtout parmi ceux de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, eux qui renversent des maisons entières, enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. » L'un d'entre eux, un de leurs propres prophètes, a dit, « Les Crétois sont toujours menteurs, de mauvaises bêtes, des gourmands paresseux. » Tite 1:10. Et Paul a dit, « Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Galates 1:9 ainsi, faute d'une vraie paix avec Dieu, beaucoup sont revenus à lui, qui leur montre en quoi ils offensent, et quand ils reviennent, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Des justes, remarquez cela, de telles personnes n'existent pas dans votre église de misérables coupables. Mais laissez-moi vous demander, la foi n'est-elle pas le don de Dieu, et tout ce qui n'est pas de la foi est péché, n'est-ce pas? Si oui, alors je demande, que gagneriez-vous si vous pouviez amener un homme à choisir de se conformer à votre culte, contrairement à sa foi et à sa conscience, simplement pour ne pas perdre les joies de sa femme, de ses enfants, sa liberté et ses biens? Cela ne ferait-il pas de lui un hypocrite, quelqu'un qui paraît être ce qu'il n'est pas? Non, puis-je dire qu'il ne vaudrait pas mieux qu'un hérétique, car je tiens pour hérétique celui qui est condamné par lui-même, qui se permet de faire ce pour quoi il se condamne. Cette manière de persécuter les hommes pour leur foi et leur conscience est le moyen d'en amener certains à devenir hypocrites et hérétiques, et c'est la voie par laquelle de tels hommes se sont maintenus à toutes les époques pour soutenir leur idolâtrie et leur superstition, témoignent les prophètes de Baal. Le vieux serpent le sait assez bien, c'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse que le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Quelques-uns de ceux-là sont les serviteurs et fidèles témoins de Jésus, qui ne voulaient pas et ne pouvaient pas adorer la bête. Mais encore, supposons que je manque de foi et d'une juste intelligence des choses qui appartiennent à ma paix éternelle, pensez-vous qu'une prison soit un moyen de me conduire à la vraie foi? Les murs d'une prison peuvent-ils rectifier mon entendement ou me donner foi et sagesse? Christ a-t-il jamais commandé l'usage d'une prison, d'une amende, ou de quelque chose de cette nature, contre des hommes qui ne voulaient pas l'entendre ou le croire? Quel fondement avez-vous pour cela? Montrez-nous votre fondement pour ces actions, et apportez en commandement, précepte ou exemple de la part de Christ ou de ses serviteurs, et alors je penserai mieux de vous. Mais sinon, laissez-moi vous dire qu'un jour vous pourriez trouver votre lot être ce que le prophète a dit, « Malheur à celui qui pille et n'est pas pillé ». C'est pourquoi je désirais volontiers, même par pitié pour vos propres âmes, que vous considériez ce que vous faites, non que je sois tant affligé de mes propres souffrances pour l'amour de la vérité, non, quoique ma pauvre femme et mes enfants me soient proches et chers, pourtant béni soit le Seigneur, j'ai foi en Dieu à leur sujet, et je crois qu'il prendra soin d'eux et de moi aussi, et je puis me confier au Seigneur en toutes choses, béni soit son nom à jamais. Bien que ce soit dur, et que cela se révélera dur un jour pour vous qui me séparez d'eux, d'être dépouillé d'eux pour mon obéissance à Dieu, jeté en prison, et par vous rapporté comme l'un des pires des hommes. Oh, c'est la voix, et la manière que le serpent, et ses instruments d'autrefois employèrent contre les serviteurs de Jésus-Christ, témoins les accusateurs et persécuteurs de Paul. Nous, disait-il, avons trouvé cet homme comme une peste, un fauteur de sédition, un meneur de la secte des Nazaréens, et les grands rabbins de ces jours-là, les scribes, les pharisiens, les grands prêtres et les chefs, qui persécutèrent notre grand Seigneur et Maître Jésus-Christ, l'accusèrent d'être un ennemi de César, un blasphémateur et un séducteur. Et vous qui êtes mes persécuteurs, n'êtes-vous pas fort semblables à ces hommes dont il a été parlé, qui persécutèrent Christ et ses apôtres, et crièrent aux chefs pour obtenir leur aide dans vos démarches contre moi? Et bien que certains d'entre vous ne m'aient jamais vu, autant que je sache, et qu'aucun de vous ne soit jamais venu converser avec moi ni voir en quoi je me trompais quant à ma foi et à mes principes, vous pouvez pourtant répandre que je suis une personne dangereuse, un séducteur, et que je cours le pays pour tromper le peuple. Ces accusations mensongères seront un jour rappelées, à moins que vous ne vous repentiez, ce que je désire que vous fassiez. Considérez ce que vous faites et voyez à qui vous vous comparez. Vous n'êtes que des hommes, vous pouvez vous tromper, puisque vous n'êtes pas conduit par un esprit infaillible, et ne pouvez donc pas être sûr d'être dans le vrai. Mais vous allez par conjecture, et vous vous appuyez sur le jugement des anciens pères, des docteurs révérés, comme certains les appellent des auteurs païens, ou bien sur vos propres conceptions ou autres semblables, et vous demeurez incertain et laissez le peuple insatisfait, et vous vous montrez ainsi comme n'étant pas envoyé avec le message du Seigneur, reçu de Dieu lui-même, comme le manifeste à chacun par votre bouche incertaine de grands mots, celui dont le Seigneur a ouvert les yeux. De sorte qu'il y aurait grand danger si je laissais Christ, la vraie lumière et le maître des hommes, qui paraît maintenant par son pur esprit dans mon cœur et me montre les choses qui appartiennent à ma paix, et que je vous suivais, je serais alors conduit, en principe comme en pratique, à faire les choses que je ne devrais pas faire et à laisser non faites celles que je devrais faire, et alors je ne pourrais éviter d'être un misérable pécheur et coupable, en qui il n'y a point de santé. Donc je vienne à vous, contrairement à ma foi et à ma connaissance, et que je vive et meure dans l'erreur, par crainte d'être retenu ici en prison et réduit à la pauvreté dans le monde. Ce que béni soit le Seigneur, je n'estime pas en comparaison de ma paix avec lui, le Dieu de paix, et que je pense plaider devant Dieu en disant, j'ai fait ce que j'ai fait par soumission à la volonté des hommes, qui disaient être les ministres de Christ, et j'y étais contraint par les grands prêtres de notre pays, et je devais soit me soumettre à leur. Autrement je ne l'aurais pas fait, car c'était contre ma foi et ma conscience, et à cause de la crainte des hommes. Cela m'excusera-t-il? Sinon, alors je vous demande, pouvez-vous m'excuser devant Dieu, et m'en assurer? Si je me conforme à votre culte et vous donne de l'argent pour obtenir un pardon de ma véritable obéissance à Dieu dans ma désobéissance envers vous. Car c'est bien ainsi que la chose se présente, si vous ne pouvez pas m'excuser, si vous deviez ou pouviez me forcer à pécher contre Dieu, alors pourquoi ne devrais-je pas, moi qui suis un homme paisible, qui ne fait tort à personne et qui aime tous les hommes, avoir la liberté de vivre comme j'ose mourir? Puisque je dois répondre pour moi-même, et tenir ou tomber devant mon propre maître, qu'avez-vous à faire de me juger, moi qui suis le serviteur du Seigneur? Je dois tenir ou tomber devant celui que je sers. Comment osez-vous frapper vos compagnons de service et les jeter en prison, alors qu'ils ne vous ont fait aucun mal et ne vous doivent rien d'autre que l'amour, quand celui qui fit mettre en prison son compagnon qui lui devait cent deniers fut si sévèrement jugé par son Seigneur, qui lui avait remis une plus grande dette? Et lui-même nous a appris à employer ses paroles dans la prière, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et ne voudriez-vous pas que Dieu réponde à votre propre demande? Considérez ces choses, et apprenez à faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît, car de la même mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré de retour. Souvenez-vous de ce que votre Sauveur a posé comme de grandes offenses au dernier jour pour ceux de la gauche. Allez maudits dans le tourment éternel avec le diable et ses anges, ou retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous connais pas, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Et quand ils répondirent, « Quand avons-nous vu ayant faim, soif, nu, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur dit, « En tant que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits de mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi. » Par là, il est clair qu'il tient pour fait à lui-même ce qui est fait à ses disciples, car c'est en effet pour lui, qui nous enseigne à vivre justement, sobrement et pieusement dans ce présent monde mauvais, et parce que nous lui obéissons et gardons son commandement, nous sommes haïs de tous les hommes à cause de son nom. Mais les méchants ne sont pas ainsi traités par vous, le jureur, le menteur, l'ivrogne, l'orgueilleux, etc., sont laissés en liberté, et de nos jours ce sont des hommes à la mode. Mais si c'est une si grande offense de ne pas visiter les serviteurs de Christ lorsqu'ils sont dans la détresse, qu'adviendra-t-il de ceux qui les condamnent à la prison et les y retiennent, ce qui est un moyen de les conduire à la nudité, à la faim, à la soif et à la maladie? N'a-t-il pas été dit qu'il vaudrait mieux qu'on lui attachât au cou une meule de moulin et qu'on le jetât à la mer, que d'offenser l'un de ces petits qui croient en Christ? Quel sera donc le lot de celui qui non seulement les offense, mais les persécute, les emprisonne, pille leurs biens, ment et calomnie leurs personnes, les présente faussement au monde, ôte au juste sa justice, l'arrache à sa chère femme et à ses enfants, et les fait souffrir aussi, alors qu'il est dit, maudit soit celui qui sépare l'homme et la femme. Quelle excuse pourrez-vous donner au dernier jour pour ces choses? Combien vous êtes dissemblable de celui qui est bon pour tous les hommes, qui a donné sa vie en rançon pour tous, et qui fait briller son soleil sur tous, et descendre sa pluie sur tous, et dont la grâce qui apporte le salut paraît en tous et lutte avec tous. Je fus prisonnier ici pour l'Évangile pendant plus de 5 ans et demi avant d'être remis en liberté par le roi Jacques Yi. Je fus libéré en audience publique le 23 du premier mois, 1635-6. Je rentrai alors chez moi auprès de ma femme, mais après être resté quelque temps, je fus poussé à visiter des amis, et je parcourus la plus grande partie de cette nation, sauf les Cornouailles, et je fus aussi dans quelques parties du pays de Galles. J'eus également beaucoup de réunions à Eastwood et aux environs, dans le Nottinghamshire, et beaucoup furent convaincus et devinrent obéissants à la vérité bénie. Mais le prêtre d'Eastwood, entendant un grand bruit à propos des amis, et aussi que beaucoup de ses auditeurs le quittaient, dit à son fils, qui était aussi prêtre et prêchait parfois en l'absence de son père, de prêcher la même doctrine que moi. Mais lorsqu'il tenta de prêcher comme son père le lui avait conseillé, il fut si confondu dans son sujet qu'il ne put continuer. Il arriva un jour que j'eus une très grande réunion dans la maison de Luke Hanks, où j'entendis dire que ce prêtre d'Eastwood avait dit que je lui avais volé ses brebis, entendant par là certains de ceux qui avaient été ses auditeurs. Après la réunion, j'allai chez un ami, mais cette nuit-là le prêtre envoya son clerc, me demandant de venir chez lui, ce que je fis, et plusieurs amis vinrent avec moi. Quand nous y arrivâmes, on nous invita à nous asseoir, ce que nous fîmes, et nous restâmes un moment en silence, jusqu'à ce que le prêtre de Hénor, qui nous avait suivis là, s'adressa au prêtre d'Eastwood en disant qu'il voyait que j'avais été mandé afin qu'il pût me parler, sur quoi le jeune prêtre me demanda comment j'avais été appelé à être prédicateur. Mais avant que je réponde à sa question, il ajouta, « J'accorde qu'un homme peut être légitimement appelé, quoique ce ne soit pas de Dieu, car, dit-il, l'appel du roi suffit. » À quoi un ami présent dit, « Je suppose que ce roi n'en a appelé aucun de vous. » « Non, répondit le prêtre, je crois qu'il vous appellera vous avant aucun de nous. Je dis alors que je niais qu'un homme puisse être légitimement appelé s'il n'est pas appelé de Dieu, comme Aaron, et j'étais prêt à le prouver par l'Écriture. » Le prêtre de la maison s'efforça d'aider son fils à se tirer d'affaire, mais il se prit au même piège, car ils ne purent prouver qu'un homme fût légitimement appelé à prêcher, à moins qu'il ne fût appelé de Dieu. Nous parlâmes encore jusqu'à ce qu'ils fussent tous deux réduits au silence et confondus. Dans ce silence, une préoccupation vint sur moi, et je me levai et prêchai la vérité parmi eux, et quand j'eus fini, les prêtres me donnèrent la main, et nous nous séparâmes en bons termes. Lorsque nous fûmes partis, la femme du prêtre se mit en colère contre eux, disant qu'ils m'avaient fait venir comme des fous et m'avaient laissé repartir comme des fous, mais que si jamais je revenais, elle menaçait de me brûler ou de m'ébouillanter. Après cela, j'entendis dire que le prêtre de Hénor tomba dans une grande détresse d'esprit et fut confondu dans sa chair. Je visitai les amis dans le Lancashire, et dans plusieurs autres régions, et le Seigneur fut avec moi dans son grand amour et sa miséricorde. Autrement, mes voyages auraient été fatigants et désagréables, mais le Seigneur m'a aidé bien des fois. Oui, les vivants le savent, et l'ont rencontré pour leur consolation. Autrement, me rencontrer n'aurait guère pu faire, car l'œuvre était celle du Seigneur, et il a œuvré en nous et pour nous, selon son bon plaisir, la gloire, l'honneur et la louange lui sont entièrement dus. Après cela, j'allai dans le Cheshire, et à Chester de nouveau, où j'avais été éprouvé, et où il y avait maintenant plus d'ouverture qu'autrefois. Je me rendis plusieurs fois encore à Chester, et j'eus de bonnes réunions, par la bonté et la miséricorde du Seigneur, qui les rendit telles par sa précieuse présence, selon son bienheureux témoignage, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je l'ai attesté bien des fois, car si le Seigneur n'avait pas été avec nous, nous n'aurions rien pu faire sans lui. Il était bouche et sagesse pour nous, et nous donna de comprendre l'Écriture, ainsi que le mouvement de son Saint-Esprit, nous inspirant par lui, car nous parlions selon ce qui nous y poussait, et il nous donnait les paroles. Renommé et exalté au-dessus de tout, sois notre Dieu plein de grâce, car nous ne sommes pas venus avec des paroles de notre propre sagesse, ni avec des paroles que la sagesse humaine enseigne ou nous a enseignées, mais avec des paroles que le Saint-Esprit nous donnait, comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles. J'allais à la plupart des réunions du comté de Cheshire, et c'était un beau peuple, et beaucoup d'amour, d'unité, de paix et de concorde étaient parmi les amis. Après cela, je voyageais dans plusieurs comtés d'Angleterre, allais à l'ouest et au sud, et à travers d'autres comtés vers le nord, comme le Worcestershire et le Staffordshire sur mon retour à la maison, et je trouvais les amis dans un grand amour et une grande unité, et beaucoup furent convaincus. La vérité prospérait, et nous fûmes doucement rafraîchis et consolés ensemble, car nous étions une aide et une force les uns pour les autres, et le corps s'édifiait lui-même dans l'amour, béni et loué soit le nom de notre Dieu à jamais. Je me rendis très souvent au loin à des réunions, et parcourus autant que j'en étais capable la plupart des régions du pays, prêchant librement l'Évangile. Je voyageai aussi au pays de Galles, et à travers une grande partie de celui-ci, où nous eûmes beaucoup de bonnes réunions. Nous fûmes en grand danger en traversant l'Oahost vers le Gloucestershire, mais par miséricorde, nous arrivâmes sains et saufs chez John Bolton, à Houdston, et visitâmes la plupart des réunions de ce comté. J'étais à Franchet, puis de là à Bristol, et je participai à beaucoup de bonnes réunions dans le Somersetshire, et dans le Devonshire, jusqu'à Exeter, où il y avait une belle réunion et où une maison venait d'être nouvellement bâtie. Je traversai plusieurs comtés pour aller à Londres. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, me favorisa de sa puissance et de sa présence, pour mon grand réconfort et ma joie. Après la réunion annuelle à Londres, j'allais dans l'Hertfordshire et l'Essex, puis d'un endroit à l'autre dans le Suffolk, le Norfolk jusqu'à Yarmouth et de retour à Norwich, et en tout sens dans ce comté jusqu'à Darnemay Lane, et dans l'île d'Ely, le Cambridgeshire, le Huntingdonshire, le Northamptonshire, le Leicestershire et le Rutland, puis dans le Lincolnshire, à Boston et à la ville de Lincoln, et à travers la plus grande partie de ce grand comté. Puis dans le Nottinghamshire, et ensuite dans le Derbyshire, de retour à la maison. Ayant voyagé dans un grand amour, beaucoup, durant ce voyage, furent tournés vers le Seigneur, se détournant du mal de leur voie, comme en bien d'autres temps et lieux où je voyageais. Et bien que je rentrasse souvent chez moi fort épuisé, faible et fatigué, pourtant j'avais ma récompense avec moi, mes gerbes dans mon sein, et d'ordinaire j'allais bientôt mieux après m'être reposé un peu. Je me sentis porté à aller visiter les amis en Écosse, et en conséquence je passai par Halifax, Leeds et York, où je rencontrai Thomas Aldam qui m'accompagna. Nous allâmes à Northallerton, Yarm, Stockton, Bishop Auckland et Durham, puis à Newcastle-upon-Tyne, où nous eûmes de grandes réunions. Je fus à Sunderland et en beaucoup d'endroits du Northumberland que je ne puis nommer. Nous arrivâmes à Berwick, où des gens grossiers troublèrent la réunion, brisant les fenêtres, mais une dame qui demeurait en Northumberland, étant là, alla trouver les magistrats de la ville, après quoi la populace fut réprimandée. Le lendemain nous allâmes à Kelso et eûmes une réunion paisible. James Holliday vint avec nous à Édimbourg, où nous assistâmes à leur réunion annuelle pour cette nation, et ce fut une occasion réconfortante. La réunion suivante que nous eûmes fut à Montrose, nous en eûmes aussi une autre avant d'arriver à Hurley, où demeurait la veuve de Robert Barclay. Nous y restâmes plusieurs jours, durant lesquels j'observai que lorsque ses enfants étaient levés le matin et habillés, elle s'asseyait avant le petit déjeuner, et d'une manière religieuse attendait le Seigneur. Ce soin pieux et l'instruction maternelle donnée à ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes eurent sans doute l'effet souhaité sur eux, car à mesure qu'ils grandissaient en âge, ils grandissaient aussi dans la connaissance de la bienheureuse vérité, et depuis ce temps certains d'entre eux sont devenus des prédicateurs publics de la vérité. De là nous allâmes à Aberdeen, et y trouvâmes une belle réunion d'amis, et y demeurâmes quelque temps, puis chez John Forbes, et à Cashor, Kingswells, et de retour à Aberdeen, Hurley et Montrose, Dundee, Leith et Édimbourg, où l'on nous attaqua lorsque nous étions paisiblement en réunion. Puis nous allâmes à Lithgow, et ainsi chez Charles Ambleton, serviteur du duc, de là nous arrivâmes à Durand, et dans une ville où il y avait une maison de réunion, dans laquelle nous tîmes une réunion. Puis nous allâmes à Glasgow, où le peuple était méchant, et de là à Ambleton, où nous eûmes une bonne réunion, puis à Argyll et Douglas, et chez un certain James Wood, où nous tîmes une réunion, et il vint avec nous par Dumfries en Angleterre. Le Seigneur, dans sa miséricorde, m'aida puissamment par sa puissance céleste, et nous donna beaucoup de réunions précieuses en divers endroits de cette nation, bien que j'aie senti chez les Écossais en plusieurs lieux un esprit amé et envieux, et que nous ayons été deux fois en péril, tant à Édimbourg qu'à Glasgow, où l'on nous jeta des pierres. À Édimbourg, une pierre me frappa tandis que je déclarais en réunion, mais ne me fit point de mal. Après notre retour d'Écosse, nous eûmes beaucoup de bonnes réunions dans le Cumberland, qui furent pour nous des temps réconfortants, car le Consolateur était avec nous et nous aidait puissamment de réunion en réunion. De là, nous voyageâmes à Candal, au Wright et à Swarthmore, où nous eûmes une belle réunion. Nous fûmes aussi à Lancaster, d'où nous retournâmes encore à Candal, puis de là chez Thomas Cam et dans le Yorkshire chez John Blackling près de Sedbergh, et en passant par chez William Ellie jusqu'à Skipton, d'où nous allâmes à Leeds et à Wandsworth, où je laissai mon compagnon Thomas Aldam et retournai chez moi, où je trouvai ma femme et ma famille en bonne santé à ma grande consolation, loué soit le Seigneur à jamais. Les amis en Écosse et ailleurs furent très affectueux envers nous, et il y avait dans cette nation de belles réunions vivantes. Je les sentais dans la vie, proche de mon esprit, là où les vivants se connaissent au-delà des mots, et j'espère et crois que le Seigneur y aura, dans le temps à venir, un grand peuple, bien que l'ennemi soit en colère et veuille empêcher la propagation de la sainte vérité par ses ennemis, mais ses armes ne sont que charnelles, sottes et faibles. Je désire que beaucoup d'amis pensent à cette nation et, dans la volonté de Dieu, se donnent pour aller la visiter, car il y a là un peuple zélé dans sa profession, et s'il était seulement amené à la connaissance de la vérité, je crois que beaucoup seraient très zélés pour elle. Je trouvai que ces deux hommes dignes, Robert Barclay et Patrick Livingston, avaient laissé derrière eux une douce odeur, et leur disparition, surtout celle du premier, fut une grande perte pour cette nation, et la cause d'un grand deuil pour les amis là-bas, et aussi pour d'autres ailleurs. Mais béni soit Dieu, Robert Barclay a laissé derrière lui une famille pleine d'espérance, louange soit rendue au Seigneur à jamais. Cette année-là, j'eus à cœur de visiter les amis avec les lignes suivantes. Une épître aux amis en Écosse, écrite à Moniach le 22 du 11e mois, 1694. Vraiment bien-aimé ami et frère, c'est avec un amour pur et sans feinte, qui jaillit de sa source que je vous salue tendrement, vous et tous les véritables amis avec vous, vous sentant proche et cher pour moi en tout temps lorsque je me souviens de vous. Et je me réjouis que le Dieu et la source de toutes nos miséricordes se soient étendus si abondamment jusqu'à vos âmes immortelles, et vous ait fait participer si largement avec nous à sa grâce libre et au don de la vie éternelle, de sorte que vos parts et mesures en sont très grandes, pour la... C'est vers lui seul que nous devons toujours regarder, afin que, comme des hommes ayant besoin d'un continuel secours, nous puissions éprouver sa main généreuse dispensant librement à chacun de nous. Car c'est lui seul qui nous fait et nous garde, nous et tous les siens, véritablement vivants, fidèles, féconds et utiles en ce jour béni de sa grande puissance, où, demeurant en lui, nous avons communion à la fois avec lui et les uns avec les autres. Le labeur et le désir ardent de mon âme envers le Seigneur, et que nous soyons tous conservés jusqu'à la fin dans un vrai renoncement à soi-même, marchant humblement, doucement et innocemment dans ce glorieux jour de lumière, de vie et de puissance de l'Évangile, afin que nous puissions contribuer à la joie les uns des autres. Et l'unité bénie de son Saint-Esprit, étant vécue, nul ne peut nous ôter notre joie, laquelle n'est possédée par nous que tandis que nous demeurons en lui, qui est la vie éternelle, à lui soit rendue la louange par nous. Nombreux sont les exercices, les tentations, les souffrances et les tribulations qui nous accompagnent ici, au-dedans comme au-dehors. Nous pouvons bien dire, notre Dieu est Dieu et ne change pas, autrement, depuis longtemps déjà nous aurions pu être détruits, car nous sommes pauvres, faibles et de nous-mêmes, incapables de penser une bonne pensée. L'ennemi le sait et s'efforce de nous tromper par ses ruses subtiles, car si nous ne demeurons pas en celui qui est notre sagesse, justice, sanctification et rédemption, nous n'avons aucune sagesse à nous, ni justice, ni puissance pour nous sauver en aucune manière. Oh, la bonté de Dieu envers nous est sans mesure. Et nous voyons, plus que jamais, combien il est nécessaire de continuer à regarder vers lui pour être aidé à chaque instant, car tout notre temps est un temps de besoin, et si le Seigneur n'était pas avec nous, nous ne pourrions tenir contre les flots de l'ennemi, ses tempêtes et sa violence déchaînée, et les orages qui nous accompagnent dans ce pèlerinage périlleux. Mais que gloire, honneur, louange et d'abondants retours d'humbles et sincères actions de grâce soient rendues à notre grand et miséricordieux Dieu. Il est avec nous, et il est le même qu'il était aux jours anciens, lorsqu'il fit passer Israël à travers la mer Rouge à pied sec, et leur donna de contempler sa délivrance miraculeuse, et les sauva des mains de leurs nombreux ennemis qui cherchaient à les détruire. Le sentiment de son amour et l'expérience que j'ai de sa bonté attendrissent mon pauvre cœur et inclinent mon esprit devant lui, et j'espère que vous y participez avec moi, et que vous le sentirez aussi avec moi, au-delà des mots ou des écrits. Chers amis, je désire que nous soyons tous attentifs à celui qui est notre rocher et notre refuge, demeurant toujours près de lui, n'oubliant pas le Seigneur. Ici est la lumière divine, car il y demeure, et en lui il n'y a point de ténèbres, ici nous voyons nos états tels qu'ils sont, et que ce que nous le sommes par sa grâce. C'est ici que nous rencontrons de frais pâturages de vie, et que nous nous nourrissons ensemble, là où l'ennemi ne peut venir, ni l'orgueilleuse édomite impure s'approcher. Mon cœur se réjouit de sentir l'amour couler si librement vers vous en ce temps. Je n'écris pas ces choses comme si je vous croyais ne pas les connaître. Non, si c'était le cas, je ne pourrais être si libre et ouvert envers vous, mais seulement pour vous les rappeler un peu, et en ces quelques lignes m'entretenir avec vous dans l'amour, car c'est avec les fruits d'un cher amour sans fin que je vous salue ici, comme des hommes dont je puis dire qu'ils sont de ma chair et de mes os, et membres avec moi de ce doux corps harmonieux, dont Jésus-Christ est la tête, le Seigneur et le Roi. Il est digne de régner, c'est son droit. Celui qui voudrait être grand parmi vous doit être le moindre de tous, et c'est l'œuvre du Seigneur, et elle est merveilleuse à nos yeux. Oh, que nous puissions par expérience voir cet état d'abaissement, car en ce lieu beaucoup l'ont rencontré et ont été rencontrés par lui, lui qui ne méprise pas l'abaissement de ses serviteurs et de ses servantes. Assurément, il nous convient d'être humbles, car notre Maître est doux et humble de cœur. Mes chers et très bien-aimés, les doux sont les plus remplis d'amour, de cet amour même qui ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son propre intérêt. En ce sens, l'apôtre entend nous conduire à rechercher le bien de tous et les choses qui sont à Jésus-Christ. Je prie pour que nous demeurions toujours dans cet amour, et alors nous serons certains de nous aimer les uns les autres. Mon cœur se réjouissait lorsque je sentais votre amour pour moi et mon compagnon dans le Seigneur, lorsque j'étais présent avec vous, et aussi lorsque je sentais votre amour demeurer frais envers nous après notre départ d'avec vous selon la personne, mais non selon l'esprit. J'ai aussi été heureux que vous m'ayez souvenu dans vos prières, je désire que vous continuiez à vous souvenir de moi, et j'espère ne pas vous oublier. Je vous exhorte, comme un frère, à maintenir parmi vous le bon ordre de la vérité bénie, et à ne pas négliger vos réunions mensuelles et trimestrielles, et à prendre soin de toute l'Église de Dieu dans votre nation, et à ne pas tarder à vous aider les uns les autres, car le Dieu Tout-Puissant a dressé son étendard, et sa controverse est proclamée contre toute injustice. Je sais que, dans certains lieux, il manquait quelque aide lorsque j'étais avec vous, le Seigneur en a doté certains pour être un secours, et pour bien gouverner dans l'Église, et nous savons que les apôtres, dans leur voyage, laissaient aux frères des décrets à garder, et prenaient soin des églises en voyageant, et allaient voir comment elles allaient. J'espère que vous prendrez bien le fait que j'ose faire de même pour vous, et que vous sentirez mon tendre amour envers vous. Je me réjouis quand je vis une copie de votre lettre à G. Car, mais je fus affligé de voir la réponse qu'il vous fit, lui, ou sa femme, ou tous deux, il faut, semble-t-il, qu'il soit manifesté. Je désire que vous croissiez dans la racine céleste et que vous vous multipliez à la gloire de celui qui vous y a greffé. Mes chers amis, en tout, soyez véritablement obéissants au Seigneur et qu'il vous fortifie, vous affermisse et vous enracine profondément dans sa vérité bénie par sa propre puissance. C'est à lui que je vous confie tous avec tendresse. Il est Dieu Tout-Puissant maintenant comme au jour d'Abraham, à lui soit la louange, l'adoration, l'honneur, la gloire et la renommée à jamais. Amen. Lisez ceci à tous quand vous y verrez un service, et envoyez-en une copie à l'honnête Bartholomew Gibson, et faites-lui savoir que mon cher amour va à lui et à sa femme, à Francis Sonnement, et aux amis à Édimbourg, que des copies en soient envoyées à tous en Écosse. Je remercie Dieu d'être assez en bonne santé, mais je ne suis pas fort de corps. Ainsi, avec mon véritable amour pour vous tous, je demeure votre ami sincère dans un amour pur. John Gratton, je demeurai quelque temps aux environs de chez moi, où j'eus beaucoup de réunions, et il y eut une belle augmentation du nombre d'amis. Mais beaucoup d'entre eux partirent pour l'Amérique, environ 40 de notre réunion mensuelle, et quelques autres, ce qui diminua assez fortement notre réunion. Après un certain temps, il me vint de visiter les amis en Irlande, plusieurs d'entre eux avaient été en Angleterre, et un amour pour eux vivait en moi. Je consentis à y aller, et me rendis à Westchester en vue de cela, mais je trouvai qu'un embargo avait été imposé au navire, de sorte qu'il ne devait pas sortir. Comme nous ne pouvions aller en Irlande, nous allâmes à Shrewsbury, puis descendîmes dans leur Fortshire, R. ni de mes temps avec moi, et à la réunion annuelle au Pays de Galles, à Pontymoal, dans le Monmouthshire. Ce fut une belle réunion, et ensuite au pont, puis par le passage vers le Gloucestershire, à Bristol, et dans le Somersetshire, chez Richard Vicry à Chew, chez John Whiting Harrington, et chez William Lawrence à Axbridge, puis retour à Bristol pour la réunion annuelle qui s'y tenait, et de là à la réunion annuelle de Londres. Après cela, je retournai chez moi avec ma femme, et y demeurai environ 7 jours, puis repartis de nouveau pour l'Irlande avec Godfrey Newroll, un ami du Yorkshire, et allai à Whitehaven dans le Cumberland pour la compagnie de George Rook, puis nous prîmes la mer, les vents étaient quelque peu contraires et nous fûmes en danger de mort, mais nous relâchâmes dans l'île de Man, et enfin arrivâmes sains et saufs à Dublin au 5e mois. Nous eûmes beaucoup de réunions précieuses dans cette nation, surtout leurs réunions provinciales, et les amis étaient généralement dans un doux amour, l'unité, la paix, la concorde et l'ordre, avec un bon gouvernement parmi eux, et une grande affection et sollicitude pour les familles les uns des autres, pour les pauvres et pour la jeunesse en tout point. Lorsque nous eûmes été à toutes les réunions des amis que nous connaissions dans la nation, ou vu des amis de toutes les réunions, et que nous fûmes libres de repartir, nous les quittâmes dans un véritable amour, étant bien satisfaits de les avoir visités, et nous nous embarquâmes à Dublin, et arrivâmes à Holyread, puis, à travers le pays de Galles, à Westchester, et ainsi chez nous. Beaucoup d'amis en Irlande avaient un grand souci de veiller sur le troupeau, le surveillant, rappelant aux amis d'être attentifs en toutes choses, de maintenir leur profession sans reproche, et que nul ne court d'une manière désordonnée après le monde, ni ne s'engage dans la dette d'autrui. Pour prévenir cela, on les exhorte à travailler légalement pour l'entretien de leur famille, pourvoyant à des choses honnêtes aux yeux des hommes, en veillant ainsi les uns sur les autres, sans doute certaines choses sont empêchées, qui autrement pourraient jeter du discrédit. Après son retour d'Irlande, il ne tint pas un compte exact du reste de ses voyages, bien qu'il visitât des amis dans divers comtés, travaillant à l'œuvre de l'Évangile selon qu'il s'y sentait attiré. Toutefois, dans ses dernières années, il fut affligé de maladies, ce qui diminua beaucoup sa force naturelle. Néanmoins, il vint plusieurs fois à Londres, et particulièrement durant l'hiver 1699. Il vint aussi à la réunion annuelle de 1700, et sur le chemin de son retour, il eut beaucoup de bonnes réunions, étant accompagné par John Cade jusqu'à Bliss où sa femme le rejoignit. L'année suivante, il voyagea jusqu'à Bristol et assista à leur réunion annuelle. De là, il alla à Bath et monta jusqu'à Londres à la réunion annuelle, qui eut lieu au quatrième mois 1701. Ce fut une grande et précieuse réunion, après laquelle il retourna chez lui. Il monta aussi à la réunion annuelle suivante à Londres en 1702. À cette occasion, il y apporta son traité relatif aux dîmes, qui était une réponse à une lettre intitulée « Le droit légal du clergé aux dîmes ». En l'année 1703, il vint de nouveau à la réunion annuelle, visitant des amis en beaucoup d'endroits en chemin. Le 26 du deuxième mois 1704, il repartit pour Londres, visitant des amis en beaucoup d'endroits en chemin, comme dans le Nottinghamshire, le Huntingdonshire, l'île d'Ely, et une grande partie du Norfolk, et il eut plusieurs réunions dans le Suffolk, la dernière étant à Ipswich où il vint à Colchester, et assista à leur réunion le premier jour, après quoi il visita plusieurs réunions dans l'Essex, puis vint à Londres à la réunion annuelle, ayant parcouru durant ce voyage 334 miles. Après son retour chez lui à cette époque, il n'y a aucun compte de ses voyages pendant 2 ou 3 ans, une plus grande faiblesse s'emparant de lui, il est probable qu'il demeura autour de chez lui, visitant les amis autant qu'il le pouvait. En 1707, il disposa de son domaine à Moniache et demeura quelque temps chez son fils Joseph, puis il alla visiter des amis en plusieurs lieux voisins, sa femme l'accompagnant, bien que tous deux fussent âgés et faibles. Mais après leur retour à la maison, sa femme, devenant de plus en plus faible, quitta cette vie le 4 du 10e mois 1707, mourant en paix avec le Seigneur, laissant derrière elle une bonne réputation parmi ceux qui la connaissaient. Le récit de sa mort, il le donna lui-même, disant qu'elle avait été pour lui une épouse très réconfortante pendant près de 38 ans, ajoutant qu'elle ne l'avait jamais empêché de partir au loin visiter les amis. En l'année 1708, il entreprit de nouveau un voyage à Londres, et alla dans certaines régions de l'Essex, du Surrey et du Kent, après quoi il retourna encore à Londres, où y demeurant quelque temps, il tomba malade, et la faiblesse augmentant sur lui, il quitta la ville pour le bénéfice de l'air et alla chez Richard Richardson près d'Uxbridge, où il fut soigneusement assisté pendant 3 semaines, durant lesquelles plusieurs amis de Londres vinrent lui rendre visite. De cet endroit, Daniel Wall y le conduisit à sa maison, de là il alla à Aylesbury, et par de petits trajets, il regagna son domicile, Richard Needham l'accompagnant. Il continua de vivre chez sa fille plus de 3 ans, étant fragile jusqu'à son décès, qui eut lieu au 9e mois 1711, âgé d'environ 70 ans, mourant sans doute en paix avec le Seigneur et en unité avec tous les fidèles, et il est entré dans son repos éternel, parmi les fidèles disciples de Jésus. Suite des lettres de John Gratton, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.